lire dans le premier livre des rois plusieurs passages, le premier au chapitre 16 et au verset 29, 1 roi 16, verset 29 à 17, verset 1er. Donc 1 roi 16, 29 à 17, verset 1er. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ebaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Nous allons relire le tout début du chapitre 19, 1 roi 19, pour nous le remettre en mémoire. Je lis au verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et l'y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et puis, un dernier texte dans le chapitre 21, donc un peu après, chapitre 21, il s'agit des versets 25 et 26, un court flash très général et ramassé sur cette période de la vie d'Israël. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab, pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Nous en sommes donc à notre introduction. Et dans notre introduction, hier, nous avons tout d'abord considéré, comment dire cela, le paradoxe, c'est deux constatations qui se percutent avec une certaine force. Ces constatations contradictoires, c'est-à-dire d'un côté un personnage taillé dans le granit, un mont Sinaï, le prophète de feu, une personnalité exceptionnelle, au caractère trempé comme l'acier, homme en même temps de profonde spiritualité, homme de prière, homme d'obéissance inconditionnelle, homme d'action, bref, grand prophète devant l'Éternel, puisqu'il sera, avons-nous dit, le représentant des prophètes de l'Ancienne Alliance sur la montagne de la Transfiguration, aux côtés de Moïse, le représentant de la loi. Et puis de l'autre, donc autre vérité qui percute la première, celle de ce chapitre 19, ce grand crack qui craque. Cette profonde dépression, cet homme de Dieu, si solide, et qui pourtant, à un moment donné de sa vie, demande la mort. Et cela nous a conduit hier matin à remettre d'autant plus en valeur cette affirmation de Jacques 5, 17, Élie était un pauvre type comme nous. Voilà qui rend ce personnage rugueux sympathique à notre regard. Nous aimons trouver dans la parole de Dieu à la fois des grands personnages, mais des personnages auxquels nous pouvons nous identifier dans notre fragilité. Et s'il n'y avait pas eu ce chapitre 19, sans doute y aurait-il à quelque part un fossé entre Élie et nous. Mais le fossé est comblé parce que la Bible est le livre des grandeurs et des servitudes humaines. Et c'est ce qui fait sa richesse, sa beauté. C'est ce qui la rend chère à nos cœurs. Élie était un homme qui ressentait ce que nous ressentons. Première conclusion dans cette introduction, ne nous croyons jamais trop forts. C'était là que nous étions restés hier matin en considérant, pour le souligner, une petite galerie de portraits d'hommes de Dieu de l'Ancienne Alliance, mais aussi de la Nouvelle Alliance ou de l'entre-deux, qui ont été des hommes marquants dans l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église, ou de l'entre-deux pour Jean-Baptiste, et qui pourtant tous, à un moment ou à un autre, de leur vie ou de leur service, ont craqué. Nous avons évoqué David, nous avons évoqué Job, nous avons évoqué Moïse, nous avons évoqué Jonas, le prophète Jérémie, le précurseur de Christ par excellence, Jean-Baptiste, l'apôtre Paul, qui a connu lui aussi des moments difficiles avec ses luttes au dehors et ses craintes au dedans, comme il le dit si bien dans 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 5. Nous aurions pu en prendre d'autres, je pense au psaume 73, un des psaumes certainement clés. Il apparaît presque dans l'axe central des 150 psaumes. C'est un psaume d'Asaph. Asaph n'était pas n'importe qui, puisqu'il était l'un des trois grands directeurs de chorale du temps de David à Jérusalem. Il était celui qui dirigeait, qui entonnait la louange, il avait donc un rôle essentiel. Et notre ami Asaph au psaume 73, explique comment il a vécu ce que Pierre Daninos a appelé le 36e dessous, comment il est descendu dans les douleurs souterraines d'un terrible découragement, alors qu'il était au service du Seigneur, chargé de diriger les chorales, voyez un petit peu. Alors, il est possible de diriger la chorale et de chanter à plein cœur, tout en cachant parfois de terribles découragements. Et Asaph a expliqué quelle était l'origine de son état. Il a commencé à comparer sa situation à celle de son voisinage, ces méchants qui boivent l'iniquité comme l'eau et qui pourtant n'ont pas autant de tuiles que ceux qui craignent l'Éternel. Le voisin de palier qui vous rencontre alors que vous avez la jambe dans le plâtre, que votre maison a à moitié brûlé la semaine d'avant, que votre fils est hospitalisé et que votre fille est au chômage et qui vous dit « Tiens, tiens, toi tu es disciple de Christ, c'est comme ça que ton Seigneur s'occupe de toi, n'est-ce pas ?» Un tel environnement dans la vie d'Asaph l'a amené à devenir amer. Il a commencé à ne plus supporter cette situation. Il est devenu, dit-il, un insensé. Jusqu'à ce que, dans cette situation intenable, il entre dans les sanctuaires de Dieu. Il entre dans la présence de Dieu pour vraiment réfléchir à ce paradoxe de ces méchants qui peuvent vivre une certaine prospérité tout en buvant le péché, en se moquant de Dieu, alors que le vrai disciple de Jésus-Christ peut être la cible de toutes sortes de problèmes extrêmement graves. Seigneur, comment est-ce possible? Et puis Dieu lui a répondu. Quand il est entré dans les sanctuaires de Dieu, Dieu lui a raconté un certain nombre de choses, et c'est ce qui fait que ce psaume 73 se termine de manière admirable, n'est-ce pas ? Désormais, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est un magnifique psaume, mais un psaume qui s'inscrit dans un contexte de dépression chez un homme qui avait pour vocation d'entraîner le peuple de Dieu à la louange. Donc il est d'autant plus intéressant, vu la vocation de celui qui raconte avec beaucoup d'honnêteté cet épisode douloureux dans sa vie. Alors ce que nous avons dit hier matin n'est pas là, et j'avais dit que j'équilibrerai mon propos, parce que vous savez, Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Et nous sommes toujours tentés par les déséquilibres. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce que nous avons dit hier, surtout dans notre conclusion, pourrait apparaître à première vue comme un encouragement à nous complaire dans la déprime, en disant « après tout, puisque je suis en si bonne compagnie, puisque j'ai des héros comme prédécesseurs, puisque je m'inscris dans la lignée des Asaph, des David, des Moïse, des Job et même de l'apôtre Paul, c'est pas si grave que ça. » C'est le danger qui nous guette. Et c'est pourquoi nous voulons ce matin quand même ceci fortement, c'est que d'une part, bien entendu, Dieu n'est pas le père du découragement. Dans les Écritures, c'est Satan qui est le père du découragement. Il faut quand même le savoir pour éviter d'avoir vis-à-vis de nous-mêmes, tout comme vis-à-vis de toute autre personne autour de nous que nous sommes appelés à côtoyer et qui vit dans le découragement, une attitude qui pourrait être dangereuse. Nous allons le dire. Satan est le père du découragement, il est le démoralisateur. Et il est le démoralisateur notamment parce que, pour nous qui sommes enfants de Dieu, il est l'accusateur. Il est l'accusateur des frères. Et vous savez que non seulement il accuse en se servant de la calomnie, ou de la médisance, mais il accuse aussi en se servant de la vérité. Faut le savoir. Je pense à ce texte de Zacharie, si je me souviens bien, au chapitre 3, dans une des premières visions, oui, au sujet de Josué, le souverain sacrificateur. Zacharie 3, et c'est intéressant parce que c'est encore dans un contexte de découragement. Il faut se souvenir, au début du livre de Zacharie, que nous sommes au retour de l'exil, c'est-à-dire que le royaume de Juda a été déporté à Babylone. Ça commence avec Daniel, jeune homme, en 605 avant Jésus-Christ. Ça va durer 70 ans. Jérusalem est détruite en 587-586. Il y a plusieurs déportations qui se succèdent. Et puis donc, 70 ans plus tard, en partie en réponse à la prière d'un vieillard quasi nonagénaire, Daniel 9, qui prie 2 ou 3 ans avant la fin de l'exil, Daniel se met en prière d'une manière toute spéciale, s'appuyant sur le rouleau du prophète Jérémie qui aura été son conseiller spirituel certainement, notamment dans son enfance et sa jeunesse. Il prie en disant: « Seigneur, tu as dit que l'exil durerait 70 ans, eh bien ça fait 67 ans à peu près que ça dure. » Parce que je suis le témoin, moi qui ai été le premier exilé en 605. Et donc, Dieu va répondre à la prière de Daniel, qui lui ne reviendra pas de l'exil, il va mourir en Babylonie, mais ça c'est le souci du bien-être spirituel du peuple en général, le désintéressement spirituel d'un vieillard qui a marché avec le Seigneur. Et donc, environ 50 000 juifs rentre à Jérusalem disons grâce à un édit extraordinaire, à un décret de Cyrus qui est absolument fantastique dans son contenu, et ils vont travailler pendant 1 ou 2 ans tout d'abord. On va poser les fondations du temple, on se remue, on fait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais au bout donc de très peu de temps, Juda s'arrête de construire. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'opposition, il y a les Samaritains, il y a des ennemis, il y a un petit peu partout autour qui s'inquiètent de la résurrection de Jérusalem. Et on entre donc dans une période de panne spirituelle, de panne de reconstruction de Jérusalem et du temple qui va durer 15 ans. Et derrière cette panne se cache notamment le péché des deux principaux conducteurs du peuple. D'une part, le gouverneur Zorobabel, qui est un homme qui a, hélas, semble-t-il, trop peu d'envergure politique et spirituelle, et qui est écrasé par l'importance de la tâche à accomplir. Et d'ailleurs, Zacharie, au chapitre 4, est une réponse à ce découragement de Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, n'est-ce pas? Ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la richesse que mon œuvre s'accomplit, mais c'est par la puissance de mon esprit. Zorobabel avait besoin de ce message. Et puis à côté de lui, vous avez le responsable spirituel, c'est le souverain sacrificateur Josué. Et lui aussi est dans un triste état qui explique la raison de la panne. Il a des problèmes spirituels dans sa vie, il porte des vêtements spirituels sales qui l'empêchent de vivre une véritable sacrificature. Et c'est ce qui nous est dit là dans ce texte. Je vous ai un peu expliqué le contexte. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Zacharie 3, verset 2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ça, c'était important, parce qu'on sait que sur le turban du souverain sacrificateur figurait une inscription très, très précieuse. « Sainteté à l'Éternel. » Consacrée à l'Éternel. Mise à part pour l'Éternel. Et le drame du souverain sacrificateur, c'est que cette inscription n'apparaissait plus. Elle était couverte de grâce, en quelque sorte, vous voyez. Et là, qu'on lui mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban sur sa tête, et lui mirent des vêtements, l'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, hein, qui était là. Cela annonçait la croix, il y a en filigrane, comme partout dans l'Ancien Testament, la présence du Seigneur Jésus. Il faut lire la parole de Dieu et l'Ancien Testament en particulier, toujours en cherchant à voir en filigrane, comme sur un billet de banque, la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est ce qui illumine l'Ancien Testament. Et nous devons toujours nous souvenir que l'Église primitive n'avait en tout et pour tout, pour Bible pendant un certain nombre d'années, que l'Ancien Testament. La prédication à Jérusalem et ailleurs se faisait sur la base de l'Ancien Testament. Et le drame du peuple de Dieu dans nos pays, c'est de négliger terriblement l'Ancien Testament. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un christianisme très, très théorique, très abstrait. L'Ancien Testament nous a été donné pour que nous comprenions le message le plus profond du Nouveau Testament en acte. C'est extraordinaire ce que vous avez comme doctrine du Nouveau Testament qui sont en germe dans l'Ancien Testament, mais qui sont déjà en quelque sorte indirectement vécues, incarné dans des personnages, voyez. Il y aurait tant à dire, mais il faut que j'aille plus loin. Donc nous avons vu là le diable, le démoralisateur, Satan, le père du découragement, l'accusateur, dans son œuvre. Donc, ne nous complaisons pas dans certaines formes de déprime. Et je le dis parce que nous verrons qu'il existe des processus, nous allons le voir bientôt, qui nous poussent à nous complaire dans certaines formes de déprime. Vous savez, certaines personnes restent dans la déprime, pardon, je dis certaines. Certaines personnes restent dans la déprime parce qu'elles en ont envie. Disons-le. Ça peine, et ça peut être notre situation à tous, en fonction d'un certain nombre de paramètres que nous expliquerons. Donc ne l'accueillons pas, cette déprime, à bras ouverts quand elle montre son sinistre visage. J'ai là un extrait d'un livre que je vous recommande. J'aime bien recommander des livres parce qu'on a des librairies évangéliques qui sont bourrées d'un tas de choses à ne pas lire et de trop peu d'ouvrages qui sont des trésors, mais qui ne sont pas achetés. C'est triste, hein? Et vous avez un livre ici, certains l'ont peut-être lu, moi je l'ai lu deux ou trois fois déjà, « Fleuve de lumière ». « Fleuve de lumière », c'est une biographie signée Aileen Crossman, C-R-O-2-S-M-A-N, Fleuve de lumière. C'est une biographie intéressante, je crois qu'elle est au groupe missionnaire, si je me souviens bien, édition groupe missionnaire. C'est la biographie de James Fraser. James Fraser, F-R-A-S-E-R, est un homme de Dieu de notre siècle. Et nous avons relativement peu d'ouvrages biographiques sur les hommes de Dieu qui sont presque nos contemporains. Lui, si je me souviens bien, est décédé, il me semble, juste après la guerre. Mais enfin, voyez, à mi-parcours, aux alentours de 1950 à peu près, il a été un pionnier missionnaire remarquable dans une des provinces de Chine, dont on parle de temps en temps, même encore à l'heure actuelle, parce qu'ils sont aussi en Birmanie, les Lissus, Lissus. Et il a fait un travail pionnier dans des circonstances extrêmement difficiles. Les formes religieuses de ces Lissus étant toutes imprégnées d'occultisme. Et ce fut un homme de prière. Ce fut un homme de prière. Et sa biographie contient des dizaines et des dizaines d'extraits des lettres qu'il envoyait à son cercle de soutien dans la prière, où, avec beaucoup de simplicité et d'honnêteté, il racontait ses combats, ses difficultés, ses découragements, ce qu'il vivait. C'est donc une biographie qui a l'avantage d'être très réaliste. Vous n'avez pas l'impression de terminer cette biographie en contemplant un homme avec une magnifique auréole autour de la tête qui a toujours gagné dans tous ses combats. Non, c'est un homme de Dieu aussi de la même nature que nous. Alors je vous encourage vraiment à la lire. Elle est facile d'accès, mais on apprend beaucoup de choses sur la vie de prière, des conseils tout à fait pratiques tels que ceux qu'il a appris lui-même en se battant là-bas. Et il parle ici, il écrit à son groupe de prière, après avoir vécu une situation extrêmement difficile, et voici un extrait de sa lettre. « Si pareil revers m'était arrivé un an plus tôt, il m'aurait enfoncé dans des abîmes de dépression. Dans le passé, j'ai succombé bien trop souvent au découragement, au noir découragement. Maintenant, je suis plus avisé et je souscris pleinement à l'affirmation « Tout découragement vient du diable. Il faut résister au découragement tout comme au péché. Céder à l'un est aussi mal et nous affaiblit autant que céder à l'autre. Dieu m'a merveilleusement soutenu au cours de cette épreuve. Et c'est lui seul qu'il faut louer quand je dis qu'à aucun moment elle n'a troublé ma paix ni ma foi rayonnante dans le Seigneur ressuscité et monté au ciel. Dieu m'a rendu capable de lui faire confiance plus que jamais, de me réjouir en lui plus que jamais et de croire plus que jamais en une œuvre de grâce parmi les Lissus. » Fleuve de lumière. Un autre texte est intéressant à ce sujet, c'est l'extrait du livre de la petite plaquette de Roy Hessen, cet homme qui a écrit quelques livres remarquables, « Le chemin du calvaire » entre autres, mais d'autres, notamment cette petite plaquette « Soyez remplis de l'esprit maintenant ». Il écrit ceci « N'oublions jamais que le Saint-Esprit ne nous attriste que pour nous consoler. Cela nous aidera à distinguer sa voix de celle du diable. La Bible appelle Satan l'accusateur des frères. Une conscience sensible peut parfois confondre ses accusations avec la conviction de péché produite par le Saint-Esprit. Or, la voix du malin ne cherche jamais à nous réconforter. Elle n'est faite que de ricanements, de critiques constantes qui mènent au désespoir et à la servitude. Y prêter attention ne libère pas. Nous pressentons instinctivement qu'elles n'auront pas de fin. La conviction de péché qu'engendre le Saint-Esprit, par contre, est brève et pénétrante. Et nous savons que si nous nous y soumettons et disons « Oui, Seigneur », notre âme connaîtra le repos. Voilà deux textes intéressants à cet égard. C'est une invitation à une juste attitude envers le découragé. Premièrement, ne pas l'accuser avec dureté. N'utilisons pas notre Bible comme une Kalachnikov. Vous savez, ces fusils mitrailleurs qui font tant de dégâts. C'est vite fait hein, de projeter des boulets rouges autour de nous sur ceux qui sont découragés, biblomains, les gnakas et ifaucons ne sont pas des tribus issues de la brousse profonde d'Amérique du Sud ou de je ne sais quelle portion de l'Afrique. Ces deux tribus règnent dans le milieu évangélique. Gnaka ifaucon. Et que de dégâts. Je pense à un homme de Dieu qui un jour a eu le courage d'écrire, sans doute parce qu'il vivait une situation de souffrance extrêmement pénible. L'église de Jésus-Christ est trop souvent le lieu où l'on achève les blessés. C'est dur, c'est un peu une de ces paroles à l'emporte-pièce qui sont plus faites pour être électrochoc que pour être le reflet d'une vérité équilibrée. Ce sont des paroles que l'on dit quand on souffre des situations particulières. Mais elles doivent nous interpeller. Elles doivent nous interpeller. Ne donnons pas un coup de main à la puissance des ténèbres. Elle n'en a pas besoin. D'un autre côté, ne pas prendre trop à la légère le découragement, nous l'avons dit, puisqu'il s'inscrit dans un contexte de péché. Et le péché ne doit pas être traité, comme le disait un évangéliste de jadis, comme un chou à la crème, mais comme un serpent en sonnette de découragement. Lui doit être traité de cette manière. Notre problème, c'est que souvent, nous confondons le découragement et le découragé. Vous voyez, c'est toujours notre problème, hein, de distinguer le problème des personnes de la personne elle-même. C'est pas tout à fait la même chose. C'est sûr que elles se rejoignent, l'un étant dans l'autre. Mais nous pouvons avoir parfois une telle haine vis-à-vis du découragement, parce que peut-être nous en avons été victimes consentantes nous-mêmes. Nous pouvons en avoir tellement souffert que nous projetons avec violence notre haine sur la personne parce qu'elle est découragée. Vous voyez, c'est aussi un risque. Ne pas prendre trop à la légère, donc ne pas dramatiser ni ajouter nos plaintes aux siennes. Nous avons besoin d'humilité. Nous avons besoin de fermeté de l'amour. Nous avons besoin de sagesse d'en haut. Et certainement que l'examen, je dirais presque clinique, des découragés de l'Écriture est de bons conseils pour nous aider dans nos relations avec ceux qui sont découragés. Voir comment Dieu a fait pour répondre aux découragés dans les Écritures. Puisqu'il est notre modèle, il est notre moteur, il est la source de nos réflexions, de nos attitudes. Donc comment, nous le verrons, comment Dieu s'y est-il pris avec Élie? Voilà qui va beaucoup nous aider. Donc vous remarquez que je ne réponds pas à toutes les questions. Pour le moment, nous sommes dans la conclusion de l'introduction. Hein. Deuxième élément de conclusion, nous avons vu le premier, ne nous croyons jamais trop fort. Deuxième élément, ne nous croyons jamais trop faible. Ne nous croyons jamais trop faible pour en sortir. Parce que vous savez qu'un de nos drames, c'est qu'il arrive des moments dans nos vies où, dans notre découragement, nous disons « c'est fini, je n'en sortirai plus ». Nous nous enfonçons dans la désespérance, d'autant plus que dans le découragement, généralement, on fonctionne au ralenti. On fonctionne au ralenti dans un monde qui va très vite. Et ça, c'est un petit peu comme quand on sort de l'hôpital après une intervention, où on est extrêmement faible, et où on voit des gens qui foncent autour de soi. Je me souviens, en 1970, après une intervention chirurgicale assez grave, dans ma naïveté présomptueuse de jeune stagiaire dans une église en Bretagne, parce que les amis qui devaient venir me chercher en voiture pour effectuer le petit kilomètre qui m'amenait de la clinique là où était ma chambre, chez eux, un couple missionnaire, Ne voyant pas l'avenir, la voiture, je me suis dit, ben, je vais y aller à pied. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je ne sais pas combien de fois, en cours de route, je me suis dit, on va finalement me ramasser à quelque part. Et je me demande si ce n'est pas ma peur d'être ramassé qui m'a poussé à me traîner jusqu'à l'entrée de la maison. Mais dans ces moments-là, je me suis rendu compte combien tout le monde allait vite autour de moi. Et c'est une impression terrible de se dire, mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir me hisser au rythme de ceux qui m'entourent aujourd'hui? C'est aussi le sentiment de la vieillesse, n'est-ce pas? Un des problèmes de la vieillesse, c'est qu'elle percute en permanence une rapidité qu'elle n'a plus. Et là, il faut s'y faire. Quand on est jeune, c'est différent. N'est-ce pas? C'est différent. Il faut croire quand même. Écoutez, j'avais 25 ans. Heureusement que le Seigneur a travaillé un peu à quelque part dans mon cœur pour me dire, écoute Maurice, c'est un moment à passer. Et puis tu vas retrouver tes forces. Tu vas reprendre, tu vas pouvoir. Et effectivement, ça fait 30 ans que ça dure, n'est-ce pas? Quand on arrive à un certain âge et à un âge certain, eh bien, on sait que notre lot est celui du ralentissement. Alors il y a ceux qui ne veulent pas ralentir et que Dieu oblige à ralentir. Et c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là. Ne nous croyons jamais trop faibles pour en sortir. Eh bien tout simplement parce que Dieu a sorti toute cette lignée d'hommes dont nous avons parlé. Dieu a sorti ces hommes de leur état. Et il l'a fait avec leur collaboration. Hein, toute cette lignée de personnages. Oh, je brûle d'envie de vous lire ceci, parce que ça entre dans notre cadre. L'auteur écrit ceci, « Il y a une disposition d'esprit qui est spécialement destructive, celle qui se réfère au chrétien fantôme. » Le chrétien fantôme est cette personne imaginaire à laquelle beaucoup d'entre nous se comparent. C'est le chrétien super spirituel, qui se lève chaque jour à 4 heures pour pouvoir prier pendant 4 heures. Ensuite, il médite sa Bible pendant 4 heures. Il va à son travail et il est le meilleur dans son domaine. Où il partage dans son travail efficacement sa foi en Christ avec tous ses collègues de bureau. Il dirige plusieurs études bibliques, il va à l'église chaque fois que les portes sont ouvertes et il fait partie de plusieurs comités. C'est aussi un conducteur spirituel merveilleux à la maison. Un exemple parfait d'époux et de père aimant, qui dirige les prières et les lectures familiales stimulantes chaque jour pour sa femme, conforme à celle de Proverbe 31, et pour ses enfants qui sont parfaits. Bien sûr, personne ne pourrait vivre à un tel niveau. Même si quelqu'un en avait la capacité, il lui faudrait 100 heures par jour. Intellectuellement, nous savons tous que ce chrétien fantôme est ridicule. Mais le problème est que cela n'arrive pas jusqu'à notre conscience. C'est une vague entité qui se trouve au fond de notre esprit, nous donnant un sentiment d'échec quand nous nous comparons à lui. C'est la raison pour laquelle de très nombreux chrétiens vivent en permanence dans un sentiment de culpabilité. Pour ceux qui croient que ce chrétien fantôme est la norme divine pour être accepté, Dieu semble à des millions de kilomètres assis dans le ciel, les bras croisés en signe de désapprobation. Il ne s'aventure même pas à lui adresser des prières parce qu'ils savent qu'il ne leur répondra jamais. C'est un petit peu digne des caractères de la Bruyère, mais c'est vrai que nous cachons si facilement au fond de nous des découragements dont nous ne sortons pas. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que Dieu nous regarde d'un air réprobateur, en fronçant les sourcils, et qu'il ne voudra plus jamais s'occuper de nous. Nous sommes tellement des incapables, nous sommes tellement loin de ce portrait robot qui doit figurer dans tous les palais du ciel, n'est-ce pas, du chrétien type. Toujours victorieux. Vous savez, on peut alimenter son découragement de cette manière. Et il suffit, quand vous êtes en plein découragement, que vous entendiez un message sur la sainteté qui soit apporté par quelqu'un qui vous présente la sainteté à un niveau tellement extraordinaire pour que vous rentriez à la maison pour vous coucher sous la couette. Mais pas. Il y a quelqu'un qui me fait régulièrement non, mais bien sûr c'est un personnage exceptionnel parmi nous, n'est-ce pas? Non, mais je vous chahute, chère sœur. Je me réjouis que vous réagissiez comme ça. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est très bien. Oui, tout à fait. Voilà. Dieu a sorti ces hommes de leur état avec leur concours. Donc ne nous laissons pas impressionner par ce qui autour de nous semble solide. Stable comme le roc. Ceux qui vous disent, allons, remue-toi un peu. Tu n'as pas de volonté. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu et du ministère du paraclet. Jean 14 et suivant, le paraclet, celui qui littéralement se tient à côté d'eux. C'est tout le début de mon livre sur Barnabas, puisque Barnabas, ce surnom en grec, fait partie de la famille de ce mot paraclet. Et Barnabas a été un mini paraclet, celui qui sait se tenir à côté de quelqu'un d'autre, au chevet de quelqu'un, pour l'encourager, le consoler, le fortifier, l'accompagner, l'accueillir. Vous avez une vingtaine de termes qui, en français, correspondent au contenu de ce petit mot grec extraordinaire. Et c'est beau, n'est-ce pas, de savoir que le Seigneur Jésus a voulu encourager ses disciples qui étaient sur le point, à quelque part, de ressentir ce statut d'orphelin, n'est-ce pas? Ça s'est passé au pied de son lit d'agonie, parce que c'est ça, la chambre haute qui précède Gethsémané. Ce sont les dernières volontés d'un maître, d'un seigneur et d'un ami plein d'amour, et qui est en train de constater un désarroi indescriptible. Des hommes qui ont complètement perdu leur repère, qui ne savent plus sur quoi s'appuyer, quoi croire. Ils ne comprennent pas ce langage du Seigneur Jésus. Et maintenant, ils apprennent de manière très claire que tout est réglé. En plus, il y a un faucheton dans l'équipe, ils viennent de le découvrir à la dernière minute. Vous imaginez tout ce que ça représentait? Et puis Jésus, avec tant d'amour, qui leur dit, mais vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas seul. Et je vous dis même plus, dans un sens, réjouissez-vous de ce que je parle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Alors vous allez être dispersés, il n'y aura pas 12 Seigneur Jésus en chair et en os, ou 11, pour aller partout à côté de vous dans l'Empire romain. Mais par contre, avec le Saint-Esprit, je serai avec vous parce qu'il est un autre moi-même. Il est de la même essence que moi, dit-il. C'est très intéressant. Nous viendrons chez vous, nous ferons notre demeure chez vous. Quel message d'encouragement pour une équipe terriblement découragée. J'ai là aussi, dans le cadre de cette deuxième conclusion, sélectionner un ou deux documents. Nous essayons régulièrement d'incarner notre enseignement, parce qu'on le comprend mieux quand on voit des personnages. Alors, j'ai sous les yeux une anecdote concernant un célèbre compositeur d'hymnes évangéliques que Dieu a utilisé remarquablement. Il est né en 1731 et décédé en 1800. C'était un homme qui a beaucoup souffert d'angoisse et qui s'appelle William Cowper et qui a en particulier à un moment donné de sa vie, sombrer d'une manière toute spéciale dans le désespoir. Et c'est ainsi que par une nuit d'épais brouillard, il a demandé à un cocher de l'emmener dans sa voiture sur un pont à Londres qui enjambait la Tamise. Et cet homme de Dieu était si déprimé qu'il avait l'intention de se suicider. Et au bout de 2 heures, pendant lesquelles le cocher sur sa voiture tourne pour essayer de trouver la Tamise, finalement, le cocher lui dit « Je me suis égaré, je ne sais vraiment plus où je suis. » Et William Cooper est vraiment vexé, offusqué par ce contretemps, et il sort de la voiture, décidant de continuer son chemin à pied, dans le brouillard, jusqu'à ce qu'il ait trouvé la Tamise et qu'il se soit jeté dedans. Il parcourt une courte distance, et voilà que subitement il s'arrête en découvrant qu'il est au seuil de sa porte. Alors à ce moment-là, Dieu lui a parlé. Et il a vu derrière cette situation tellement curieuse la main de Dieu. Donc nous continuons avec notre ami Cooper qui s'humilie, qui demande pardon au Seigneur à ce moment-là pour sa folie. Et qui, le cœur plein de reconnaissance, va écrire un hymne évangélique, dans lequel il dit ceci, il écrit les paroles suivantes. Dieu agit de façon mystérieuse pour accomplir ses merveilles. Il plante les pieds dans la mer et chevauche la tempête. Ô saint craintif, prends courage! Les nuages que tu redoutes tant sont remplis de miséricorde et déverseront leur bénédiction sur ta tête. Et il paraît que cet hymne écrit suite à cette circonstance tragique a été un encouragement extraordinaire pour de nombreux croyants affligés. Voilà une illustration. J'en ai une autre que je vous livre parce qu'elle concerne un homme de Dieu que j'apprécie particulièrement, à la fois pour sa fidélité à la parole de Dieu, pour son amour pour le Seigneur, pour son courage, souvent, cette prise de position doctrinale, et le beau ministère que Dieu lui a confié, c'est le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, qui a donc vécu de 1834 à 1892, et qui, par suite d'un rhumatisme goutteux qu'il avait hérité de ses ancêtres et qui a provoqué son décès, donc par suite de ce rhumatisme, connaissait des phases dépressives très fortes. Alors là déjà, vous avez une indication intéressante, n'est-ce pas? Quand vous êtes en face d'une personne dépressive, avant d'avoir des propos qui pourraient être dangereux, peut-être faut-il savoir s'il n'y a pas même un terrain physique qui prédispose. Je me souviens avoir vécu les derniers moments d'une chère sœur en Christ qui était membre de notre église où j'étais pasteur en Bretagne, et elle avait 53 ans quand le Seigneur l'a repris auprès d'elle, et elle souffrait dans ses derniers moments de terribles angoisses. Et il était facile de tirer des conclusions dangereuses. Ces angoisses étaient liées à des dysfonctionnements qui correspondaient à son état de santé, à elle, ce qui l'a conduit au décès. Et ce qu'elle avait besoin surtout, c'était d'être soutenue par une présence, d'être encouragée, d'être aimée, et non pas d'être reprise en disant « Oui, mais vous savez, votre tendance à descendre continuellement, à être angoissée, à vous décourager, c'est le péché, n'est-ce pas ?» Et ce n'était pas du tout ce dont elle avait besoin. Donc il faut faire attention. Voilà la situation de Charles Spurgeon. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que lui aussi a été très, très, très attaqué et il a été même au point de renoncer à son ministère de prédicateur. Et quand on connaît la richesse, la beauté de son ministère, et je bénis Dieu de ce que nous avons progressivement de plus en plus de ses ouvrages qui sont traduits en français, qui sont remarquables, et en plus, tout en étant très profond, son enseignement est émaillé d'illustrations très très belles. Il a un enseignement extrêmement vivant. Donc je vous encourage là aussi, quand vous voyez Spurgeon, à lire, mais à lire d'abord les Écritures. Alors, son biographe écrit ceci. Depuis sa jeunesse, Spurgeon a été tourmenté par de terribles élans dépressifs. Durant ces temps d'angoisse, il ne pouvait accomplir tout travail intellectuel ou spirituel qu'au prix d'une lutte acharnée. Les roues du chariot n'avancent que péniblement, avait-il l'habitude de soupirer. Même la prière me semble être une véritable corvée. Spurgeon n'aurait pas appelé ses dépressions péché. Au contraire, il est considéré comme un moyen de comprendre et de toucher ceux qui souffraient du même mal. Je descendrai volontiers dans l'abîme du tourment une centaine de fois pour y encourager un esprit abattu et pour savoir que dire à celui qui est fatigué, déclarait-il. Et dans une prédication sur le quatrième verset du psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi », Spurgeon précise encore sa pensée. Voilà ce qu'il écrit. Je sais que des frères en Christ très sages disent « Vous ne devriez pas céder aux sentiments de dépression. » Cela est très vrai. Nous ne le devrions pas. Mais nous le faisons. Et si un jour leur esprit était aussi las que le nôtre, ils ne se conduiraient pas avec plus de courage que nous. Mais les personnes qui cèdent à l'abattement sont coupables. Je sais qu'elles le sont. Mais elles ont aussi besoin de toute notre affection. Et peut-être que si ceux qui les condamnent si vigoureusement pouvaient une seule fois connaître ce qu'est la dépression, ils comprendraient qu'il est cruel d'accuser quand il faudrait réconforter. L'enfant de Dieu passe par des moments de nuit spirituelle. Et je suis presque certain que les serviteurs de Dieu qui ont joui d'une faveur exceptionnelle de la part du Seigneur ont aussi connu plus de temps de ténèbres et de souffrances que les autres. Et puis, il raconte dans un de ses livres une expérience dans ce domaine que j'ai sélectionnée. C'est dans son livre « Gagner des âmes ». Il y a quelques années, une effrayante dépression s'empara de mon esprit en raison de certains événements troublants. J'étais tellement malade que mon esprit sombra en moi et je dus crier au Seigneur du fond de l'abîme. Juste avant mon départ pour me reposer à Menton, je souffrais grandement dans mon corps, mais encore davantage en mon âme, car mon esprit était accablé. Soumise à cette pression, je prêchais un message sur les paroles suivantes « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'avais autant de qualifications à prêcher sur ce texte que je ne pourrais jamais espérer. Et peu de mes collègues sont entrés plus profondément dans ce cri si déchirant. Je ressentais la pleine horreur d'une âme oubliée de Dieu. Et cela n'a rien d'une expérience très désirable. Je tremble à la seule pensée d'avoir à retraverser une telle éclipse de l'âme. Je prie de ne plus jamais avoir à souffrir de telle manière, de cette manière, et si ce n'est pour le même résultat. Après le culte, un homme vint me voir. Il était presque bon pour un asile psychiatrique. Ses yeux semblaient vouloir sortir de leurs orbites. Il aurait sûrement totalement sombré dans le désespoir, me dit-il, s'il n'avait entendu ce message. À m'écouter, il avait ressenti qu'au moins un homme sur cette terre comprenait l'expérience que traversait son cœur. Je m'entretins avec lui et tentai de l'encourager. Je lui dis que je pensais son cas prometteur et que je me réjouissais de l'à-propos de la parole en rapport à sa situation. Apparemment, il repoussa toute la consolation que je lui offrais. J'avais cependant conscience que la vérité précieuse de la parole agissait sur son esprit et que la tempête qui faisait rage sur son âme se calmerait bientôt. Il me fallut partir pour Menton après ces événements, et mon interlocuteur quitta aussi la capitale, si bien que je ne le revis pas. C'est-à-dire, étrangement, jusqu'à hier soir, 5 années plus tard, quand il entra dans ma pièce après le culte. Il me parut cette fois-ci aussi différent de la première fois que le jour l'est de la nuit. « Oui, dit-il, vous pensiez mon cas très prometteur. » Et effectivement, je suis sorti de la nuit de mon âme pour marcher dans le soleil jusqu'à aujourd'hui. Tout est changé et transformé pour moi maintenant. Dès la première fois où je vis cet homme, dans les ténèbres de son désespoir, je louais Dieu de ce que ma terrible expérience m'avait préparé à le comprendre et à le guider un peu. Mais hier soir, quand je le vis complètement restauré, mon cœur débordé de reconnaissance envers Dieu pour mes anciennes douleurs. Je suis prêt à plonger dans l'abîme 100 fois pour le réconfort d'un esprit abattu. Il m'a été bon d'être affligé afin que je sache parler à propos à celui que la lassitude accablait. Voilà de quoi nous encourager. Voilà donc nos deux conclusions dont je disais hier matin que si nous devions rentrer chez nous déjà simplement avec cela, nous repartirions encouragés. Maintenant, à partir de là, nous l'avons dit dans 1 roi au chapitre 19, nous avons la possibilité de rechercher les causes certaines, d'autres possibles, probables, de la dépression d'Élie et d'identifier les remèdes que Dieu va apporter dans 1 roi au chapitre 19. J'ai relevé pour ma part 7 causes. Pour le moment, je n'en suis pas plus loin. Il se peut qu'il y en ait d'autres, il se peut que l'on identifie en utilisant d'autres termes. Mais ce que nous allons donc faire à partir de maintenant, c'est d'identifier, de chercher ces causes en commençant par celle qui éclate au grand jour, celle qui nous apparaît comme le nez au milieu du visage, et nous allons en tirer toutes sortes d'enseignements. Alors je vais commencer, on va encore prendre un petit peu de temps. Nous allons prendre la cause numéro 1 dans 1 roi 19, celle qui jaillit de l'histoire du prophète Élie, ce qui nous a conduit d'ailleurs à lire certains passages plutôt que d'autres, ce matin en introduction. Et nous dirons, mais attention, ça cache un piège, je vous le dis tout de suite, mais je le dis quand même comme cela, nous dirons en cause numéro 1, les circonstances difficiles. Ça, c'est ce qui saute aux yeux. Les circonstances difficiles. Si je suis un petit peu plus pointu et précis pour cette cause numéro 1, je dirais la durée et l'accumulation des difficultés. Ça précise un petit peu, n'est-ce pas, 2 aspects dans ces circonstances difficiles. La durée et l'accumulation des difficultés. Et là, il faut connaître le contexte politique, économique, spirituel. de l'époque d'Élie, de l'histoire d'Élie. C'est très important. Nous le disons tout simplement parce que nous vivons, nous, aujourd'hui, une époque qui est génératrice d'angoisse. Alors, il serait intéressant de voir si l'époque d'Élie a eu le même impact que notre époque peut avoir sur nous. Et c'est très intéressant parce que nous l'avons vu, nous l'avons lu indirectement par 1 roi 16, 19 ou 29, pardon, à 34. Nous pourrions même y ajouter maintenant les versets précédents, vous allez voir pourquoi. 1 roi 16, 23. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Et il est important de parler d'Omri, puisque vous avez remarqué tout à l'heure, un verset 29, Akab, fils d'Omri. Deux fois, Akab, fils d'Omri. Verset 30, Akab, fils d'Omri. Il y a une insistance, fils d'Omri, fils d'Omri, fils d'Omri. C'est pas pour rien quand dans les Écritures il y a une telle insistance sur une expression, c'est que Dieu veut nous rendre attentifs à quelque part à une grande vérité. Alors, notre Omri, nous l'avons là, le papa, qui régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirtsa, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Shemer et Samarie étant pratiquement la même chose, n'est-ce pas ? Samarie vient de Shemer, c'était la montagne de ce monsieur, tout simplement. Il bâtit sur cette montagne une ville, donc il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait, ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël ? Omri se coucha avec ses pères, il fut enterré à Samarie, et Akab, son fils, régna à sa place. Donc, en arrière-plan de cette nouvelle dynastie royale qui se lève, la dynastie d'Omri, c'est toute une dynastie de rois, en arrière-plan se cache un certain Jéroboam. Jéroboam, ça nous indique immédiatement la période du schisme d'Israël. D'un côté, la folie de Roboam, un des nombreux fils de Salomon, héritier du trône, mais qui se conduit sans aucune sagesse et qui, au lieu d'écouter le conseil des vieillards, se tourne vers sa propre génération, beaucoup plus dure, beaucoup plus brutale, beaucoup moins nuancée. Le résultat est dramatique, c'est ce déchirement annoncé par le prophète de l'Éternel. D'un côté, le petit royaume de Juda, Roboam, de l'autre côté, le royaume du Nord, royaume d'Israël, comme il va devenir, avec 10 tribus, et donc finalement, à l'époque d'Omri, la nouvelle capitale Samarie. Jéroboam, ça veut dire aussi, et c'est important, l'établissement d'un culte rendu soi-disant, je dis bien soi-disant à l'Éternel, mais qui est un faux culte, un culte parallèle au Nord, qui est rendu avec une lignée de faux sacrificateurs, avec 2 autels et 2 idoles, 2 veaux d'or en quelque sorte, l'un au nord, l'un au sud, Bethel au sud, Dan au nord. Tout ceci pour éviter une hémorragie qui aille vers Jérusalem. Et donc il faut continuellement garder dans nos esprits, chaque fois que nous lisons ce qui se passe en Israël à partir du schisme, donc dans le royaume du Nord, il faut toujours nous dire que pendant toute cette période, on ne rend plus un culte à l'Éternel, mais que tout tourne autour de ce faux culte parallèle, mais on fait croire que c'est un culte rendu à l'Éternel. Donc toute l'histoire que nous avons dans Akab, durant le règne d'Akab, avec Élie, s'inscrit aussi dans ce contexte. Mais ça va devenir encore plus compliqué, parce que à côté de ce culte du style Jéroboam, va s'établir un autre culte, encore plus odieux, à cause de l'épouse d'Akab. Donc vous allez avoir deux cultes qui vont se côtoyer, un culte qui sera celui de la vieille génération du temps d'Akab, qui vont continuer à s'occuper des veaux, etc., n'est-ce pas ? Et puis un nouveau culte qui, dans un premier temps, va en quelque sorte se greffer sur le premier, avec Jézabel et Baal, Astarté, mais ce nouveau culte va même essayer absolument d'éjecter le culte de Jéroboam, voyez, pour prendre de plus en plus toute la place, comme une mante religieuse qui dévore cet époux, cet autre faux culte, pour pouvoir dominer. Et c'est quelque chose d'odieux. Le schisme a lieu en 931, il va y avoir à partir de là 6 mauvais rois, dont 3 vont être assassinés. Et le dernier d'entre eux, assassiné, c'est Omri. Omri va être un politicien absolument remarquable. Dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui les affaires étrangères, la politique extérieure, tout comme dans le domaine économique, de gestion économique, il va être reconnu pour un personnage d'envergure. Nous avons dans le monde païen des indices très clairs dans des textes, n'est-ce pas, qui appartiennent à la littérature profane et à l'archéologie. Nous avons des indices qui prouvent que les souverains païens de cette région du monde reconnaissait en Omri des capacités toutes particulières. Il avait une politique de relations extérieures particulièrement développée. Mais c'est une période terrible, parce que c'est une période très prospère. Ça va être une période de grand boom économique, au moins aussi forte qu'à l'époque de l'apogée de Salomon. Grand boom économique, mais grand boom économique qui ressemble étrangement à ce qui se passe dans le monde moderne. C'est-à-dire que on voit apparaître des nouveaux riches, des gens qui s'enrichissent très vite et qui s'enrichissent sur le dos des pauvres. Et une espèce de fossé énorme qui va se creuser entre une minorité de population extrêmement riche et une majorité de population extrêmement pauvre. Et bien sûr, avec une mentalité de nouveau riche. C'est l'époque de l'argent roi. C'est aussi l'époque où, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, l'esclavage, qui, si vous voulez, existait déjà, mais, comment dire, à l'échelle de la domesticité, à une échelle, je dirais presque plus humaine, voyez, au niveau du foyer, où on avait donc des serviteurs qui avaient un statut d'esclave, mais mettons des guillemets là, parce qu'il y avait toutes sortes de statuts possibles à cette époque à l'intérieur de l'esclavage en Israël. Mais enfin, c'était quelque chose, je dirais, à l'échelle quasi artisanale, dirions-nous aujourd'hui. Mais pour la première fois, à partir d'Omri et du temps d'Akab, l'esclavage fait partie du paysage général de la politique économique d'Israël. C'est-à-dire qu'on commence véritablement à utiliser des gens en esclaves sur les grands chantiers de construction. Parce que Omri, puis Akab et d'autres vont être des grands constructeurs. Les villes vont surgir du sol comme des villes champignons. On va assister, c'est une époque où on assiste à des expropriations en masse. Donc des gens qui se retrouvent du jour au lendemain sur le pavé, expropriés de manière absolument lamentable. Nous en avons un exemple très, très artisanal, très limité dans le chapitre 21 avec la vigne de Naboth. La vigne de Naboth, si vous voulez, c'est un petit bouton visible d'une grave maladie qui sévissait à cette époque en Israël. Où on construisait partout, on construisait du luxe, il fallait exproprier en masse, il fallait de la main-d'œuvre à bon marché, on a créé une sorte d'esclavage officiel pour la première fois dans l'histoire d'Israël. Et alors vous avez, au milieu de tout ça, la fameuse Jézabel. Hein, la fameuse Jézabel, dont il est dit qu'elle était fille d'Edbal, roi des Sidoniens, qui était un ancien prêtre de Baal et d'Astarté. On sait par des textes païens que donc son propre père à elle était prêtre pendant toute une partie de sa vie et servait lui-même donc les Baal et les Astarté. Et avec Jézabel va apparaître aussi pour la première fois dans l'histoire d'Israël un autre phénomène grave qui était, là aussi, artisanal jusque-là, c'est la persécution. Jusque-là, il y avait de temps en temps une personne qui était assassinée. Mais c'était des situations exceptionnelles. À partir de Jézabel, on entre dans une toute nouvelle phase de l'histoire d'Israël. L'hostilité à l'Éternel est telle qu'on entre dans une phase de persécution systématique et de mise à mort systématique de ceux qui osent se réclamer de l'Éternel. Voyez donc, c'est une période très très particulière et qui ressemble étrangement à la nôtre. Matérialisme effréné, fossé énorme entre les pauvres et les riches, montée d'une sorte d'esclavage du travail, hostilité de plus en plus forte vis-à-vis des vrais adorateurs de l'Éternel. C'est curieux, hein, comme l'époque d'Akab ressemble à la nôtre. Et ça, c'est le problème d'Israël. Nous devons toujours apprendre de l'histoire. Hein. Chaque fois qu'Israël s'est bien porté, a connu une prospérité économique, ça a mal marché au plan spirituel. D'ailleurs, on pourrait ajouter qu'avec la construction des villes, on assiste en Israël à une urbanisation énorme. Et il y a exactement en Israël, à cette époque, des problèmes semblables au malaise paysan d'aujourd'hui. Des paysans qui sont lésés, surtout que la politique en Israël était une politique agraire, n'est-ce pas ? Israël était un peuple rural, c'était l'agriculture, c'était l'élevage, etc. Vous voyez tout ce monde-là, les lois du Lévitique tournaient énormément autour de la propriété, des champs, la nécessité de respecter les bornes, hein, vous avez une quantité de règles qui tournaient autour de ces choses. Avec l'avènement d'Omri et de ses successeurs, tout ça vole en éclats. Hein, alors vous imaginez les paysans qui, depuis des centaines d'années, c'est tout le patrimoine, toute l'histoire passée d'Israël qui vole en éclats. Plus de respect des limites des champs, on viole toutes les règles fondamentales qui sont inscrites dans la loi mosaïque. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée, où il y aurait beaucoup de choses à ajouter. Ce que je vais peut-être faire, c'est vous lire un court extrait de Fidèle quoi qu'il en coûte, comme il n'est plus publié pour le moment, hein, il doit être réédité, où j'ai essayé de résumer très brièvement cette époque. Alors j'écris ceci, c'est une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël au 9e siècle avant Jésus-Christ. En moins de 60 ans, nous l'avons lu, à partir du schisme qui en 931 déchire la nation et divise son territoire, six mauvais rois, dont trois seront rapidement assassinés, vont se succéder à la tête des 10 tribus du Nord, plongeant le royaume chaque jour un peu plus dans un désordre et une idolâtrie difficile à décrire. Omri, le dernier d'entre eux, mais non le moindre, surtout en matière de politique étrangère, bâtisseur de la ville de Samarie dont il fait sa capitale, agit plus mal que tous ceux qui étaient avant lui. Son fils Akab lui succède vers 874 et suit son exemple avec un zèle sans égal qui fera de lui le roi le plus abominable de toute l'histoire du royaume du Nord. Homme sans caractère, faible, irrésolu. Il est dominé, excité au mal, manipulé comme une vulgaire marionnette par son épouse, l'infâme Jézabel. Virago, c'est-à-dire ce femme se conduisant en homme. Virago de la pire espèce et fanatique adoratrice de Baal et d'Astarté, divinité cruelle assoiffée de sang et de débauche. Cette princesse païenne, venue de Phénicie, se montre sans scrupules, impérieuse et déterminée dans ses actes les plus odieux et diaboliques. Juste avant de tuer Joram, roi d'Israël, l'impitoyable Jéhu, son successeur, chargé d'éliminer la maison d'Akab et de déraciner le culte abject de Baal, ne manquera pas de dénoncer avec véhémence les prostitutions et les multiples sortilèges de sa mère Jézabel. Deux rois 9, 22. Son nom deviendra d'ailleurs un symbole de séduction, de corruption et de débauche et servira à dénoncer une soi-disant prophétesse opportuniste prodiguant un enseignement subtil et pervers dans l'église de Thyatire en Asie mineure vers la fin du 1er siècle de notre ère, Apocalypse 2, 18-29. Une fois le culte de Baal officiellement institué dans le pays, Israël, qui vient de traverser une assez longue période de prospérité matérielle, alors comme jamais auparavant dans le bourbier fangeux de l'apostasie, méprisant ouvertement les avertissements de la parole de Dieu, se livrant sans retenue à la prostitution spirituelle. Le syncrétisme, le mélange religieux et le formalisme redoublent. Les prophètes de l'Éternel sont pourchassés, exterminés sur l'ordre de Jézabel. Le désordre moral et social s'aggrave et se généralise. Lorsque la nation tout entière atteint le point le plus bas, se retrouvant submergée par un flot puissant et dévastateur d'idolâtrie et de superstition, lorsque le culte de l'Éternel est menacé dans son existence même par la religion vile et cruelle de Baal, alors Dieu, le souverain maître de l'histoire, suscite Élie, son prophète fidèle, qu'il propulse sur le devant de la scène, à la cour même de sa majesté le roi. Écoutez ça. Dans ce livre, je vous en ai parlé hier, c'est un livre extraordinaire, Histoire du peuple d'Israël, donc c'est un gros pavé, donc d'un couple, André et René Néer, qui sont d'origine juive, donc pénétrés de la culture juive et qui ont beaucoup à apporter. Et ils disent quelques mots sur la religion phénicienne, donc d'où viennent les Baal et Astarté. La religion phénicienne est devenue au IXe siècle une religion de choc. Elle fait appel aux instincts les plus brutaux de l'homme et tente à les aiguillonner sans répit. Alors, je ne vous lis pas la suite parce qu'il donne quelques explications assez particulières. Mais ensuite, l'organisation de la nouvelle religion en Israël se poursuit à un rythme rapide et selon un plan systématique. Les nouvelles capitales, Samarie et Jisraël, sont entièrement vouées au culte nouveau. Des temples s'y édifient, rivalisant en proportion avec celui de Jérusalem, et où un sacerdoce mi-clérical, mi-prophétique déploie une activité intense. Ces prêtres et ces prophètes de Baal sont d'origine étrangère, ils sont phéniciens. Mais ils ont l'appui de Jézabel, qui les fait venir de son pays d'origine et qui se sert d'eux comme propagandiste de la religion à laquelle elle voudrait assurer le monopole en Israël. Et il ajoute, le culte est frénétique. Frénétique dans le sens qu'on entre en transe. Vous savez, on retrouve dans le vaudou, etc. Hein. Le culte est frénétique et orgiastique, les orgies, les beuveries, d'autant plus que ce culte-là est lié à un dieu grec bien connu, Dionysos, le dieu de la vigne. Et quand on sait ce que ça veut dire, on comprend tout. Hein. Il ajoute, l'enthousiasme sacré et l'extase sont obtenus par l'absorption de liqueurs fortes, de vin, des danses sauvages marquent les grands moments de délire. En Phénicie, l'orgie s'intègre aux éléments fondamentaux de la vieille religion agraire cananéenne, mutilation sanglante, débauche sexuelle, sacrifices humains. Voilà donc où en était arrivé Israël à l'époque d'Akab. Et il faut dire, les prophètes le disent, hein, Israël a été dénoncé à cette époque et à d'autres, y compris dans le royaume du Sud, comme agissant de manière plus immorale que les nations païennes environnantes. Dans son péché, Israël est allé plus loin que les païens qui étaient autour d'Israël. Voilà dans quel milieu Élie arrive. Et une fois qu'il surgit dans ce milieu, 3 années et demie terriblement difficiles commencent pour lui. Puisqu'il va devoir se cacher, hein, il est dit « cache-toi ». Et bien entendu, il doit se cacher parce que Jézabel l'aurait vite fait passer à la casserole, et Dieu le sait. Alors, cache-toi. Et l'histoire d'Élie tourne autour de ces deux impératifs, cache-toi, présente-toi. Il y a des moments pour se cacher, il y a des moments pour se présenter. Il y a des moments pour être à l'abri de la main de Dieu, tout à fait à l'écart, et puis il y a des moments où Dieu nous met sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'il y a aussi des découragements qui viennent de ce qu'on se présente quand on devrait se cacher, et on se cache quand on devrait se présenter. Ça, c'est vrai aussi. Cache-toi. 3 années et demie d'une certaine solitude spirituelle, de clandestinité. Et puis c'est donc un temps de famine et de crise en Israël. Donc un contexte de tension qui dure. Et de tension qui est d'autant plus difficile à vivre pour Élie, qu'Élie est un homme de Dieu qui, derrière sa rugosité apparente, son granit extérieur, cache un cœur extrêmement sensible. C'est un tempérament sensible. Et comme il est passionné de Dieu, comme il aime passionnément l'Éternel, sa souffrance concernant la déchéance d'Israël, concernant l'apostasie, le péché d'Israël, est proportionnelle à la déchéance. Vous comprenez ? Plus vous aimez le Seigneur, plus vous vivez près de lui, plus vous souffrez dans votre sensibilité en constatant l'état de ceux qui vous entourent. Et il a donc un ministère prophétique, donc il se sent d'autant plus concerné à cause de ce ministère personnel. Souffrance terrible dans son cœur. Nous allons nous arrêter là parce que je ne veux pas vous abreuver trop longtemps, mais simplement peut-être vous rappeler le drame de Lot. Parce que nous avons ce texte de 2 Pierre 2, 6 à 10. Où il nous est dit, et là je vous le lis dans la transcription de Kuhn, Dieu a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre, il les a renversées et réduites en cendres, pour que leur sort serve d'avertissement à ceux qui dans l'avenir voudraient vivre en défiant ses lois, mais il a délivré Lot, cet homme de bien, écœuré par les pratiques immorales de ces hommes pervers. Ce juste vivait au milieu d'eux, certes, mais son âme intègre était torturée à longueur de journée par les agissements criminels qu'il lui fallait voir et entendre quotidiennement. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'on peut, on pourrait appliquer ce passage à notre ami Élie. Bon, la seule différence, c'est que Lot a eu tort d'aller se fourrer dans la gueule du loup. Bénis Dieu pour Abraham qui, lui, a accepté de perdre en apparence le fruit de la promesse que Dieu lui avait faite, hein, quand il a dit « écoute, choisis », il partait perdant à court terme. Mais il avait confiance dans la promesse de Dieu. Et Dieu lui a dit immédiatement après « tu as bien fait, parce que tu vois tout ce territoire, c'est moi qui le gère, il sera à toi. » N'est-ce pas ? Donc Lot, le tort de Lot, c'est d'être allé dans la gueule du loup, se fourrer à Sodome et Gomorre, alors qu'on savait déjà à cette époque que ces villes étaient abominables. Donc il avait un choix. Mais une fois qu'il était dans Sodome et Gomorre, même si, là aussi, Genèse 19 nous prouve que ces évaluations n'étaient pas toujours très correctes, en tout cas, il est présenté comme ayant été un homme intègre, et qui souffrait terriblement du péché qu'il voyait se développer autour de lui. Alors, je voulais simplement vous donner cette illustration. Nous nous arrêtons là. Nous allons reprendre ceci demain, terminer cette vision de l'époque pour mieux mettre en avant ce problème du crack des lits face à la durée et l'accumulation des difficultés. Nous allons doucement, mais il me semble que c'est tellement important que toujours nous voyons l'arrière-plan derrière lequel un personnage évolue, parce que ça nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses et de mieux nous identifier à lui.